Donc tu viens retrouver tes vieux souvenirs ?
Ouais, sur Bamako. Là, ce matin, j'étais obligé de sortir du disque dur quelques... J'avais hyper oublié, quoi.
Alors, en fait, une fois qu'Austin est arrivé...
Ça a tout pris.
Ça a tout balayé, ouais.
Ça a ouvert plein de portes à tout le monde, des deux côtés, en fait, entre Austin et Angers.
Tous les projets Bamako, moi, je les avais intitulés « Aller-retour Bamako ». Ça faisait penser aux billets d'avion.
C'est vrai que c'était vraiment du donnant-donnant. Et c'est ce qui est chouette dans une coopération, c'est que ça n'aille pas que dans un sens.
Donc, si tu veux, à un moment, c'était aussi que les Américains, ils mettent Angers sur la carte, mais aussi qu'il y ait des artistes d'Angers qui y aillent.
Ça a été un tissage amical, de rebondissement en rebondissement.
Il y a un proverbe malien, c'est « Aobora Aokaso, Aonana Aokaso ».
Vous avez quitté chez vous, bienvenue chez vous.
Aller-retour, Angers, Austin, Bamako. Un podcast réalisé par Julia Méon, dans la série des petites et grandes histoires du Shabada, à l'occasion des 30 ans de la salle. Ok, retour à Angers. Expatriée non loin de là, je reviens sur ma terre natale poser quelques questions. Quelle est l'histoire des coopérations internationales musicales menées sur le territoire? Comment ces échanges ont-ils façonné la ville, sa culture? Quelle place a eu le Shabada, la salle de musique actuelle en juin, dans tout cela? Et qu'en reste-t-il? J'ai bien demandé s'il existait une frise, une liste, quelque chose pour se repérer.
Quelques-uns, c'est sûr, de tête. Maintenant,
j'ai interrogé Internet, ChatGPT. J'ai même passé quelques coups de fil ratés.
Ah non, vous vous trompez de numéro.
Mais c'est finalement dans les mémoires, au fur et à mesure des entretiens, que j'ai pu démêler les liens.
Veuillez patienter, nous traitons votre appel.
Sur le chemin, j'ai retrouvé des amis.
Ouais, Julie, salut, c'est au quatrième.
J'ai découvert de nouvelles personnes aussi. À coup de rebond, j'ai reconstitué le fil de l'histoire. Voici le fruit de mon enquête. Retour en terre connue.
Bonjour.
Pour nous guider dans ce voyage, un personnage incontournable. Notez bien sa voix. François Delaunay, l'ancien directeur du Shabada.
C'est bon pour toi ?
Oui.
Premier aller-retour, Angers-Bamako.
Le premier souvenir que j'ai, c'est que à l'époque, Jean Monnier, le maire d'Angers, avait proposé à l'Ojo d'aller à Bamako faire une petite résidence, un concert, des rencontres, enfin, voilà. Et c'est eux qui ont mis le pied là-bas les premiers, en totale indépendance du Shabada, mais ça nous a permis d'amorcer quelque chose avec la musique.
Premier stop, je vais donc rencontrer Denis Péan, fondateur du groupe angevin l'Ojo, pour me raconter ce tout premier voyage musical à Bamako en 1996.
L'histoire de l'Ojo avec l'Afrique, avec le Mali particulièrement, elle a commencé un jour quand une fille m'a appelé au téléphone que je ne connaissais pas, Iliana. Elle est venue de Nantes, elle a ouvert une carte sur la table, elle m'a montré le Mali, elle m'a dit « Est-ce que ça vous intéresse d'aller au Mali ?» Et donc on y allait, on a financé notre premier voyage pour aller rejoindre le Festival du Théâtre des Réalités, sous l'égide d'un homme qui s'appelle Adama Traoré, qui est un homme de théâtre très courageux, très indépendant politiquement, intellectuellement.
Oui, hello.
Oui, bonjour Adama, c'est Julie.
Bonjour Julie, comment ça va?
Très bien.
J'ai appris que le maire d'Angers venait au Mali. Et un matin, j'ai débarqué dans son hôtel, il était dans le jardin, en train de prendre son petit déjeuner. Je lui ai dit, bon, écoutez monsieur le maire, voilà... je viens de créer un festival à Bamako et on aimerait, vu qu'il y a le jumelage entre Angers et Bamako, recevoir un groupe d'artistes d'Angers. Et Eliana Woutmir m'avait parlé beaucoup de l'Ojo. J'ai dit, mais l'Ojo, je connaissais. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel de Philippe Brix qui me disait que le processus s'était enclenché du côté d'Angers.
Deuxième stop chez Philippe Brix, ancien manager du groupe Lojo.
Au deuxième coup de téléphone avec Adama, évidemment, la question du coût se posait. Nous, avec le groupe, on pouvait peut-être gérer la question des personnels, mais le côté voyage, on était une équipe de 12 personnes, c'était quelque chose quand même, quoi. Et à ça, Adama m'a dit, mais écoute, le maire d'Angers, Jean Monnier est en visite à Bamako, il arrive demain, si tu veux, je m'en occupe. Rentrant à Angers, Jean Monnier a donné des consignes. Et effectivement, ils ont débloqué un budget pour nous payer les billets d'avion, quoi.
Et voilà, c'était notre premier voyage et on y allait. Et là, ça a été le début d'une histoire qui dure jusqu'à maintenant en termes d'amitié.
Ensuite, l'écho qu'il y a eu à Angers de ça, c'est la création d'un petit festival qui a eu lieu au Shabada et un petit peu disséminé à Angers.
En 97 a donc lieu la première édition des Nuits Tout Couleur, organisée par l'association Flux, initiée par le groupe Le Joe, et le Shabada, avec l'aide de la ville d'Angers. Des soirées qui deviendront un festival et dureront une dizaine d'années. Lors de notre rencontre,
qui est-ce qu'il y a
François et Kalcha,
notre rédac-chef, notre plume,
s'en remémore des souvenirs.
Ouais.
Moi, j'ai des souvenirs de Nuits Tout Couleur, juste complètement folle.
Ouais.
Où je voyais pas beaucoup de groupes, mais par contre, dans le catering, il y avait des teufs de pas possible. C'était, ça paraîtrait même impossible aujourd'hui à faire. En fait, je pense qu'il y aurait plein de trucs qui diraient, bah non, là, on peut pas laisser les gens comme ça dans le catering.
Pour en savoir plus, je donne rendez-vous à Christian Copeau, à l'époque salarié de l'association Flux, dans le catering du Shabada.
Ça fait marrant de revenir là. En fait, on décorait. Il y avait des tentures partout, des structures en palettes.
Les Nuits Tout Couleur, en fait, c'était complet,
une sorte de maquis,
avec des groupes complètement inconnus. Parce que c'était le concept, en fait. Les gens venaient à une soirée, ils venaient pas à un concert.
Et du gros son ici et tout.
Alors, y avait de la déco, toute une armée de plasticiens angevins et maliens qui venaient et qui, pendant 3 semaines, 1 mois, travaillaient dans des ateliers pour décorer, transformer le Shabada en un lieu complètement improbable. Il y en avait partout. Là, en 2001, on a même investi toute la descente et partie du parking. Donc, on a fabriqué un désert, en fait, devant le Shabada, avec une tente touareg, des tapis, des...
Petit à petit, la démarche s'inscrit de façon plus globale sur la ville. Des partenariats sont noués avec des maisons de quartier,
par exemple de la maison de quartier de Verneau,
accueillant des conférences, des repas organisés par la communauté malienne et d'autres événements mettant à l'honneur des artistes du Mali.
D'abord Angers.
Les Nuits Tout Couleur s'étendent même au-delà dans le département.
Maine-et-Loire. En 2000, on a été jusqu'à Niort.
Voilà, tu dis, là, on y est. On est dans de l'action culturelle. C'est pas du socio-culturel, c'est du culturel-social. Pour nous, c'était important qu'on amorce une dynamique où on fait venir des groupes spécialement en France, ce qui leur ouvre des portes pour faire d'autres choses en France. C'est pas juste l'idée, c'était pas de faire juste un one-shot à Angers. On a fait venir un groupe totalement inconnu qui s'appelait Azawad, qui était des Touaregs, qui, à peine le dos tourné, retourné dans leur pays, se sont appelés Tinariwen.
Tinariwen, qui a gagné donc des Grammy Awards, qui fait des tournées dans le monde entier. La première fois qu'ils sont venus en Europe, c'est sur les fonds des Angevins, des impôts des Angevins, donc une subvention de la mairie d'Angers pour les billets d'avion.
Une rencontre qui s'était scellée 1 an plus tôt à la Maison du Partenariat, une infrastructure clé du jumelage avec Bamako, appelée par certains Maliens la Maison d'Angers. Denis Péan et Philippe Brix du groupe Le Joe nous restituent cette rencontre hors du commun.
Je pense que la deuxième année qu'on est allé à Bamako, on a rencontré des gens qui nous paraissaient, par leur mise, tout à fait différents. Leurs habits, leur posture, leur teint. C'était des gens du désert. Et qui jouaient une musique particulière, avec des guitares.
On a vu 7 personnes arriver, qui n'étaient pas du tout habillées comme des Bamakois. En fait, ils étaient habillés en nomades. Et ils arrivaient, ils n'avaient pas de valise, pas de guitare, rien du tout. Ils sortaient d'un 4x4 en stop, quasiment. Après 2000 km et 10 jours, peut-être, de voyage.
Adama Traoré avait eu l'intelligence de nous réunir dans le même endroit que ces gens-là pour qu'on les connaisse.
Et je me suis battu un moment pour que ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui les Tinariwen soient logés à la maison du partenariat. Parce qu'à l'époque, on m'avait dit non, qu'on ne pouvait pas les accepter là-bas, que Angers n'avait pas construit la maison du partenariat pour concurrencer des hôtels au Mali. Il a fallu que je dise à Dominique de Ferrière, si tel est le cas, écoute, on arrête tout. Heureusement qu'ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, c'est le cas de dire.
Et si Adama avait bien invité le groupe Tinariwen à Bamako, qui sont donc ces Touaregs rencontrés par Lojo et qui se nomment Azawad?
On n'est pas vraiment Tinariwen. Enfin, on n'est pas le Tinariwen que...
Kalcha nous met sur la piste.
Que vous pensez qu'on est?
Parce que Tina Raven, chez nous, c'est en gros, tu sais jouer les morceaux, t'es Tina Raven. Les Tina Raven historiques, comme vous semblez penser qu'on est, on sait pas où ils sont dans le désert. Et nous, on a entendu parler qu'il y a besoin de Tina Raven, on est là, quoi.
C'est une histoire un peu fondatrice. Les vrais, les faux, en fait, quand on connaît l'histoire, on répond pas comme ça. On ne savait pas qui était Tina Raven. Le groupe avait presque 20 ans d'âge, mais déjà il y avait une vingtaine de personnalités qui avaient joué et composé ce groupe-là. Et puis dans ce groupe, il y avait des chanteuses très importantes aussi, qui ont joué un rôle fabuleux, parce que chez Lojo, il y avait Nadia et Yamina, qui étaient berbères et qui se sont pris pour d'une passion pour les rencontres qu'elles ont faites là-bas, parce qu'on a passé tout d'un coup 3 semaines tous les jours, parfois la nuit ensemble, avec ces Touaregs, à faire du thé, à discuter.
Lojo dit, bon, bah écoutez, on va tout faire pour vous faire venir l'année prochaine, donc à Angers. Et là, la surprise, c'était que c'était 6 hommes et une femme. Le groupe s'appelle, donc ils ont un nom, et ça s'appelle Azawad.
Et le Tina Raven d'aujourd'hui est un mélange des deux, les anciens et les nouveaux.
Et l'épopée ne s'arrête pas là. Alors arrivé sur le sol européen, il passe 48 heures en garde à vue avant d'arriver à bon port, à Angers.
Je connais la fille de Catherine Trottmann.
Bah, ouais, tu vois, ça serait, je vais pas interviewer tout le monde, mais au moins pour les
citer. Alors, moi j'en ai quelques-uns, c'est sûr, de tête. Lojo Zenzile, c'est sûr. Kual, Elzone Busta.
Lors d'un passage suivant au Shabada, je tombe sur Yann, bassiste à l'époque du groupe angevin Elzone Busta, invité à jouer à Bamako au Festival du Théâtre des Réalités en 1999. Pas tout à fait une coïncidence, puisque Yann est aujourd'hui responsable et régisseur des studios de répétition de la salle.
Comme programme, on devait juste faire des dates pendant le festival. Et puis, ça a un peu dérapé. On s'est retrouvé à jouer dans un stade pour le LG Tour électronique. Tu vois, le groupe de électroménager. Et qui était piloté par Basile Boli, le footballeur. Sauf que je savais pas qui était Basile Boli. J'étais le seul du groupe à pas le savoir. Plein de rencontres. Un gros dépaysement en termes de technique pure, de son, de concert, etc. Enfin, tu vois, une énorme leçon d'humilité. Où, à Bamako, j'ai rencontré des gens qui jouaient sur des guitares qui ressemblaient à des arcs et qui étaient 10 fois plus pointus que moi, qui savaient 100 fois mieux jouer que moi et qui se la racontaient pas du tout.
Kalcha regorge d'anecdotes croustillantes sur ses premiers voyages de musiciens et musiciennes angevines à Bamako.
Ah, à Bamako.
Ah, oui, non, je parle de Bamako. Ouais, les Enzilés, ils auraient des trucs rigolos à raconter. Parce que, en fait, les Maliens étaient tellement pas habitués à voir des musiques instrumentales qu'ils pensaient qu'en fait, ils avaient un chanteur qui avait dû avoir un problème. Et donc, ils montaient sur scène pour chanter. En fait, le mec, il jouait cette... Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui viennent sur scène et puis ils se mettent à chanter et tout. Et du coup, il y a eu des concerts. Ouais. Ils ont fait des morceaux ensemble après.
C'est à l'époque où les groupes étaient aussi en direct avec la mairie.
Les Farfadas, je crois.
D'ailleurs, il n'y a pas seulement des artistes, mais aussi des techniciens qui circulent entre les deux pays, apprivoisant des conditions techniques tout à fait différentes.
Et puis le beatboxer aussi, LOS, il est venu avec moi.
Mais mon temps étant compté, j'avance donc de quelques années. J'atterris chez Vincent Loiseau, artiste sous le nom de Kual.
Vincent Kual qui a toujours été en parallèle de nous, avec ses propres moyens. Il a profité de la dynamique sans être directement un artiste soutenu dans ce cadre-là. Il était grand et autonome, mais il nous a beaucoup inspiré par la force des choses.
C'est ici. Je savais que c'était sur un côté, mais je croyais que
c'était...
Mon premier souvenir vraiment, ça devait être les Nuits tout couleur organisées au Shabada. Voilà, dans lequel il y avait plein d'artistes maliens qui venaient. Et puis c'est là que j'ai fait les premières rencontres qui m'ont amené en 2002 à aller au Festival du Théâtre des Réalités à Bamako. C'était une révélation, quoi. Ça a ouvert une porte. On a joué en plein milieu des rues de Bamako. C'était des spectacles gratuits pour un public très nombreux. Et nous, on jouait quelque chose, un spectacle très théâtralisé, très occidental, qui était vraiment en décalage. Donc ça a été un peu une claque pour moi, parce que ça m'a initié d'autres envies. Il y a énormément de place pour l'intuition aussi, pour les choses qui se font en dernière minute. Voilà. Et on nous a proposé de jouer dans un stade.
Alors,
français du nom de Poil, qu'on applaudisse très très fort. Ils viennent de la France, ils sont de la ville d'Angers.
Voilà, c'était de se rajouter sur une affiche qui comptait déjà peut-être 30 ou 40 artistes.
Le groupe Poil, avant, Bouba et Tiken Djar, pas connu.
Et paf, direct coupure de son. On se retrouve comme trois cons sur scène. Le public qui commence à crier 0, 0, 0, tu vois. On sait pas si c'était à nous ou si c'était au maître du son.
Et donc, dans le même voyage qui a duré un mois, donc c'était un voyage assez fondateur quand même, on est parti au nord, dans la région de Tombouctou, pour jouer au festival du désert, qui était vraiment organisé par les Lodjo. On joue entre deux dunes. Ça fait partie des choses inoubliables, mais qu'on vit un peu comme un... On sait pas trop si on est dans le rêve ou dans le réel, tu vois, c'est un peu surréaliste en fait, voilà.
On nous dépose...
Christian Copeau est lui aussi du voyage,
passe plus, hein,
devenu alors le manager de Poil.
4x4 nous dépose à quoi, je sais pas, 300 mètres, 400 mètres de la Seine. On est complètement perdu en plein désert et on voit un Touareg, en tout cas quelqu'un avec un chèche comme ça, qui nous fait un coucou de la main comme ça, donc on se dirige vers lui naïvement. Et en fait, c'était Jean-Paul Roman, l'ingénieur du son de Lodjo, qui nous dit « Ah les gars, c'est trop fort de voir des engins en plein désert et tout ». Il nous emmène sur le site du festival et puis bah là on retrouve Philippe, Denis, tout le monde était là.
C'est né à la maison du partenariat, je pense, en 99.
Philippe Brick se souvient.
Dans quelques nuitées passées, à prendre du thé, à discuter avec Dico, Foy Foy, Denis. Et plus il nous racontait le désert, plus on avait envie d'y aller. Et on a défini un projet technique, parce qu'on est venu avec le fret, parce qu'ils n'avaient rien, évidemment, là-bas, quoi. Ce nom Festival au désert est devenu le nom d'un projet qui a duré jusqu'à la guerre en 2012 et qui existe toujours, mais qui est en exil, quoi, pour le moment.
Ce festival a perduré après nous.
Denis Péan.
Quand on l'a quitté, puisqu'il est devenu trop grand. Nous n'étions que jamais que des musiciens, pas des organisateurs de festivals qui commençaient à avoir une envergure internationale.
Mais l'histoire de Poil avec le Mali ne s'arrête pas là.
Quand je suis revenu, moi, j'étais pas très au clair avec l'idée d'être venu jouer un spectacle tout en français, très théâtralisé, dans la rue de Bamako. J'ai trouvé que c'était très loin du code. Je suis revenu l'année suivante, mais en apprenant la langue, le Bambara, pour faire des chansons dans la langue, c'est-à-dire m'adresser à celui qui était là. Voilà. Chiwara, chiwara.
Chiwara, chiwara. Chiwara, chiwara. Clairement, ça nourrit, je pense, les échanges entre nos cultures.
Sylvia Camara-Tombini, adjointe au maire en charge de la coopération avec Bamako entre 2008 et 2014.
Je pense à quelqu'un comme Poil. Il a puisé dans son amour pour le Mali et dans ce qu'il découvrait, dans ce qu'il a pu découvrir au Mali, une diversité, et ça s'est ressenti dans son œuvre finalement.
On fait ça même tout changer, je pense. J'étais avant dans des musiques, on va dire, plus sombres, plus urbaines. Et voilà que d'un coup, avec la découverte des musiques du monde, voilà que là, tout ça s'ouvrait, quoi. C'était des cassettes. On avait un distributeur, Mali Cassette. C'était une démarche qui me plaisait bien, ça.
Je me souviens à Bamako du travail qu'avait mené Poil avec notamment les Enfants des Rues.
On a enregistré deux albums d'un groupe d'Enfants des Rues qui s'est monté, qui s'appelait Guerrebou Kunkan. Et c'était la première fois que des enfants de la rue prenaient la parole devant un pays, quoi. Et le Shabada, pour nous, c'était un lieu... Alors, on jouait régulièrement, hein, puisque à chacun de mes albums, j'ai joué au Shabada. Et puis, on invitait des artistes maliens. Et je me suis retrouvé soit à inviter des artistes maliens sur scène, soit à rejoindre une soirée avec des artistes maliens pour aller faire mes chansons.
J'ai eu beaucoup de chance déjà de rencontrer Delaunay. J'ai aussi eu beaucoup de chance de rencontrer Vincent Poil.
Lassi King Massassi.
Il est quelque part, je dirais même, l'artiste angevin le plus malien.
Artiste reconnu internationalement comme le père du hip-hop malien.
On s'est rencontrés, c'était à l'Institut français. Et Vincent, il jouait, il avait le projet Tiwara. La politique, en tout cas, de l'époque, était vraiment une politique engagée culturellement. Le Shabada a beaucoup aidé à la carrière de beaucoup, beaucoup d'artistes maliens. Ça a permis même à certains artistes de commencer leur tournée internationale à partir de Angers.
On retrouvait un peu une similitude avec la maison d'Angers en fait à Bamako. Le Chabada était pour beaucoup en fait un peu la maison des Bamako aussi.
Sébastien Tussaud.
Sur Angers, tout simplement parce qu'on avait toujours la porte ouverte.
Bénévole de l'Office de coopération internationale de la ville d'Angers, puis salarié de 2012 à 2016.
Même des artistes maliens nous sollicitaient aussi de temps en temps pour nous dire « j'aimerais bien jouer sur Angers ». On pouvait toujours passer par le Chabada et on avait toujours une écoute, toujours une attention.
Et y compris d'ailleurs dans notre dernier projet avec le Mali, avec 3 musiciens maliens. Et ça, c'était l'an dernier et c'était toujours en temps de résidence au Chabada.
François Delaunay nous remet sur les rails.
Dans un premier temps, on a travaillé avec ce qu'on avait comme équipement, c'est-à-dire la maison du partenariat.
Avec aussi parfois le soutien d'autres partenaires comme l'Institut français du Mali.
Après, dans un deuxième temps, on a cherché aussi à avoir des partenaires maliens pour parler de partenaire à partenaire, sans passer par la mairie, tout en ayant des budgets de la mairie. On a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Aliou Nifra, qui était un entrepreneur culturel, qui avait une société de production vidéo, une salle de spectacle. On était sur un pied d'égalité quand même avec lui. On a monté des gros projets, dont le plus gros qui s'appelait Bama Saba, entre autres avec la Siking Masasi, Amkoulel, 3 rappeurs très connus à Bamako. Quand on se baladait à Bamako avec eux,
mon ami,
c'était quelque chose.
Tu dis que tu n'as aucune famille, mais personne n'a aucune famille. Je suis Bamana, tu es Bamana. Je suis ta famille.
Arithmétique familiale, point.
À la fin des années 2000, le Chabada se met donc à porter des créations, en lien notamment avec la salle malienne Le Blomba. Parmi celles-ci, un projet hip-hop porté par le groupe angevin Nouvelle Air et 3 artistes maliens, Mike Mo, Shanana et Amkoulel. L'occasion pour moi d'une nouvelle expédition.
Bonjour. J'ai rendez-vous avec Guillaume de l'Art de Rien.
Oui, c'est tout en haut.
Guillaume Axou, je suis coordinateur de l'association L'Air de Rien depuis 18 ans. Je suis également artiste. Le point de départ, c'était l'envie avec Nouvelle Air de faire de la date, d'aller un peu partout. À l'époque, il y avait 2 membres de Nouvelle Air qui travaillaient avec Kual et qui étaient partis au Mali. Et nous avaient parlé un peu de leur expérience, ça nous avait donné envie. On a fait une première expérience, on est parti faire une résidence là-bas, quelques dates, des ateliers d'écriture, rencontrer des gens. Et ça s'est traduit par la création d'un collectif qui s'appelle Hip Hop Kanou. On a appris énormément sur leur façon de faire, sur le côté instantané, improvisé, spectacle, d'être au rendez-vous au bon moment avec la bonne énergie. Le collectif a duré dans le temps, peut-être 5 années vraiment, à échanger à distance, à se voir. On a été là-bas, mais on les a fait venir aussi en France plusieurs fois, avec au programme du travail de résidence, des concerts, mais aussi de l'action culturelle pédagogique, parce que c'est toujours notre lien avec l'Air de Rien, le compromis entre faire des concerts, mais aussi transmettre.
En 2012, tout bascule. La situation politique du Mali commence à devenir compliquée avec de premiers coups d'État. La coopération entre Angers et Bamako en pâtit.
Ça a certainement distendu les relations et en tout cas
Sylvia Camara
fait en sorte que certains projets n'ont pu se faire.
Plus rien n'a été comme avant avec le Mali parce que ça a été de mal en pis. Il y a eu des attentats aussi à Bamako. Ça devenait très compliqué. De quoi tu vas faire quelque chose là-bas.
En 2014 également, la majorité politique change au sein de la ville d'Angers.
On a fait perdurer des expositions qui ont lieu à Angers avec des artistes maliens.
Benoît Pilet devient l'adjoint aux relations internationales.
La coopération décentralisée en France n'est possible que si les États entretiennent des relations diplomatiques. À partir du moment où les relations diplomatiques sont rompues, ce qui est très rare, les collectivités n'ont plus le droit de faire de la coopération. Par contre, les associations peuvent intervenir sur le territoire malien avec tout un processus pour lequel on ne peut qu'accompagner de loin au risque de faire capoter les projets s'il y avait le bout du nez d'une politique publique qui était là.
Je pense que l'intérêt pour la coopération avec Bamako n'était plus le même et que la situation politique au Mali a accéléré le fait que la municipalité préfère s'orienter vers d'autres coopérations.
Les 50 ans se fêteront cette année quand même avec une journée ou une semaine sur la culture, mais sur la politique. Comment faire en sorte de garder des relations culturelles, des relations artistiques, des relations amicales ?
Ça s'est fini un peu en queue de poisson, à tel point que maintenant, la maison du partenariat est fermée. Enfin,
s'il y a bien une chose qu'on apprend quand on est artiste avec le Mali, c'est qu'il y a des tas de temps politiques.
Vincent Loiseau, Kual.
Donc moi, j'ai confiance que le lien avec le Mali, il va continuer à exister, voilà. D'une façon ou d'une autre, dans un temps ou un autre. Et puis après, entre les mairies d'Angers et Bamako, il y a quelque chose qui... Il y a des rapports qui sont cassés. Donc, nous, comme avec les maisons de disques, ou comme avec les élus d'une ville, c'est pareil. Il suffit qu'une équipe change et on se retrouve à être dans le bureau du directeur, à faire écouter notre maquette. Ça, c'est une réalité de la vie d'artiste, qu'on est vraiment très tributaire de gens qui bougent. À des postes où ils bougent, et nous, on bouge pas, quoi. Enfin, on bouge pas, on suit une ligne. Ce que je me dis avec le Mali, c'est garder la ligne quand même, quoi. Voilà.
Alors que la crise politique au Mali mettait un coup de frein aux échanges culturels avec Bamako, en 2011, un autre jumelage se dessinait avec Austin au Texas. Changement d'ambiance, nouvelle personne. Deuxième aller-retour, Angers-Austin.
D'impôts offerts par la mairie quand les Pony Pony Run Run ont été nommés aux Victoires de la Musique. C'est à cette occasion que le maire me dit « Ah, bah tiens, tu vas être content, on va jumeler avec Austin, parce qu'il paraît qu'il y a un gros festival là-bas. »
Tout d'un coup, la ville d'Angers qui est jumelée avec Austin. Doudou, Radical Production, producteur de spectacles. Déjà, moi, Austin, je connais depuis longtemps. Quand on avait tourné avec les Tugs aux États-Unis, notamment la tournée de 91, on avait joué à Austin. J'ai des groupes d'Austin que je fais tourner, les Black Angels, pour les plus connus. Pour moi, Austin, c'était un terrain entre guillemets connu.
Très naturellement, je suis allé voir Christophe, David et Doudou pour lui dire « ça te fait penser à quoi, quoi ?»
Il me dit « oui, bah tiens, c'est le dossier qu'on a fait pour Bamako. » Je lui dis « ouais, mais je lui dis à François, t'es un peu provoque, je sais pas si tu peux le répéter ça. »
Après, pour l'anecdote, c'est rigolo, mais il me dit « oh, bah, tu vas voir, là,
c'est toi l'Africain,
c'est nous les Maliens et
c'est eux les Européens. »
Les rôles vont être inversés avec eux. Qu'est-ce qui pourrait bien les intéresser ? Par la suite, on s'est aperçu qu'en fait, ça les faisait rêver de venir en France.
Les jumelages, pour moi, ça reste quand même des trucs folkloriques d'habitude, quoi, tu vois. Donc, Puis en causant à bâton rompu avec lui, l'idée, elle est venue. Je lui ai dit, mais tu sais, moi, mes copains d'Austin, les Black Angels, je sais qu'ils ont monté un festival qui est plutôt bien, qui a l'air intéressant, qui s'appelait à l'époque Austin Psychfest, qui est prometteur et tout. Est-ce qu'on pourrait pas, nous, tu vois, dans le sens de prendre un truc aux Américains et de le ramener ici, voir avec eux et qu'on soit à l'édition européenne.
Moi, je suis pas un spécialiste des musiques psychédéliques, mais... Dans l'idée, c'était parfait, parce qu'on était sur une niche, un truc de niche, ça nous allait bien.
C'est un peu démarré comme ça, l'idée, tu parles, après il se passe 2-3 ans, parce qu'il faut y aller, parce que bon, tu vois.
Donc la première année, on est allé au South by Southwest, on est allé avec des gens qui représentaient un peu un label ou un tourneur, mais il y avait bien sûr aussi des musiciens. Dans ce cadre-là, en parallèle, j'avais pris rendez-vous via Doudou avec le mec qui était, la petite main à l'époque du festival Austin Psychfest. Ce soir-là, on a connecté avec l'équipe du Austin Psychfest. Et comme j'aime à le raconter, les gens de la mairie étaient avec nous.
C'est le genre de détail qui va faire la différence entre plusieurs villes. C'est que le directeur du cabinet du maire, à l'époque, c'était un fan de rock. Et il était avec nous, Austin. Et le premier concert, le premier soir, en descendant de l'avion, il était avec nous. Donc ça aide quand même à motiver après, derrière, à ce qu'il se passe des choses.
Alors ça s'est pas fait la première année. Eux, ils tombaient un peu des nues. Alors évidemment, il y avait Doudou qui essayait de les rassurer pour dire que c'était un peu sérieux ce qu'on faisait. Et donc, il a fallu attendre l'année d'après pour que quand même, on se revoie. Alex Mas, qui était notre interlocuteur, le chanteur des Black Angels, il le raconte très bien dans le film sur les 10 ans de Lévitation.
Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré François. J'ai entendu dire qu'un groupe d'ambassadeurs allait venir à Austin. Ils voulaient nous rencontrer. Je les ai emmenés, évidemment, dans un des restaurants français de la ville nommé Justine's. Nous avons passé un magnifique repas. Nous avons discuté de l'idée de faire notre festival de musique psychédélique à Angers. Deux ou trois bouteilles de vin plus tard, on était amoureux les uns des autres.
Voilà, on se serre la main, tiens les gars, prenez-nous votre marque, ils voulaient transformer en Lévitation, puis on va faire un truc, parce qu'on n'a pas de deal, hein. C'est un accord, on s'est serré la main, et puis voilà. Hein.
En 2011, au même moment, naissait à Angers une pépinière d'entreprises culturelles sous le nom de 9 rue Claveau. Son ambition, accompagner et accélérer le développement culturel et économique du territoire en misant sur la musique. Son inspiration, Austin.
On était quelques entreprises culturelles, et notamment dans le secteur de l'industrie musicale à Angers, mais assez peu, véritablement.
Clarisse Arnoux, co-directrice du label Yotanka, et Germain Kouakou, alors gérant de l'entreprise Yellow, nous explique.
Et on cherchait à se regrouper, histoire d'avoir une ambition un peu commune. Ce qu'on voulait, c'était donner à cette ville-là la résonance qu'elle méritait, et aussi certainement une fibre artistique ou créative, un peu musicale, comme pour nous, elle l'avait eu dans son héritage, grâce aux années 80-90, les Thugs. On est tous un peu des enfants de cette période-là.
On était dans un esprit de rassembler les gens qui sont sur Angers, qui travaillaient dans le secteur de la musique. Et François était évidemment notre interlocuteur, on va dire, principal, dans le sens où au Shabada, ils étaient supporteurs de cette initiative.
Et cette adresse-là s'appelait le 9 rue Claveau, et donc il y avait dans ce lieu-là, premier plan, mais aussi nos quatre entreprises.
C'était à la fois un groupement économique et à la fois un groupement idéologique, dans le sens où on pensait qu'Angers avait quelque chose à dire sur la scène musicale, à la fois française et à la fois même internationale. Et on pensait qu'on pouvait et même devait aller plus loin. Donc on avait écrit un programme qui s'appelait Angers Musique 2020. Donc il faut bien penser qu'on remontait à 2012. L'objectif, c'était de faire d'Angers une capitale musicale de France.
C'est marrant de se rappeler ça, parce que c'est quand même hyper loin dans la tête. J'ai envoyé à 6-8 ans, tu vois, la politique.
Il ne s'agissait pas de détrôner ni Paris, ni Nantes, ni rien. Il s'agissait juste de faire en sorte de pousser un peu cette économie musicale qui paraissait naissante sur Angers. Et un des aspects qui avait été relevé et identifié, c'était effectivement la coopération internationale.
Autant sur Bamako, c'était orienté soutien aux artistes. Pour une raison un peu subtile, là, sur Austin, il y avait des budgets, on va dire, économiques. C'était pas l'artiste qui était mis en avant, c'était le producteur de l'artiste.
Dès 2013, un appel à candidature est lancé pour emmener des entreprises culturelles angevines à Austin. Bruno Paris, fondateur du label Rural Faune, rejoint la délégation en 2014.
Enchanté, Bruno. Il fallait pouvoir porter un projet qui avait une résonance tant à Angers qu'à Austin, et il se trouvait que dans le cadre de mon label, j'avais pu travailler avec 4-5 artistes d'Austin. Première fois où j'y suis allé à Austin était lors du festival South by Southwest, qui est comme un gros festival qui n'est pas que sur l'aspect musique, hein, on est aussi sur des aspects nouvelles technologies, cinéma, enfin voilà, avec beaucoup d'échanges, des conférences. À côté de ça, chacun s'empare de ce festival et on a cette impression d'une fête de la musique sur 3 semaines dans les rues. Et c'est une scène très vivante, hein, c'est la capitale de la musique live, comme il est dit. Il y avait aussi une démarche, hein, la personne qui se déplaçait devait aussi participer aux frais, ce qui était normal. Hein, ça permettait de savoir vraiment le sérieux des personnes, hein, c'était pas tout frais payé.
L'un des objectifs de ces visites à Austin est de promouvoir les artistes angevins et français.
On a compris comment ça marchait, il a fallu organiser des parties. Tu loues un espace et tu montres des showcases, c'est-à-dire que tu vas faire jouer chaque groupe 20 minutes et après tu communiques pour pouvoir avoir du monde devant et que ça permette au groupe de se développer.
Entre les déplacements de délégation Austin et le festival Lévitation à Angers qui démarre en 2013, l'écosystème musical angevin est en ébullition. Certains groupes profitent de la dynamique, tels qu'Eagles Gift. Son guitariste de l'époque, Stu, nous raconte.
Avec un tout nouveau groupe qu'on avait avec des potes à l'époque, on a joué en off, en fait, dans une petite pizzeria la veille du premier Lévitation. Il y avait, entre autres, les Black Angels, etc. Donc c'était assez drôle. C'était le premier concert du groupe. À l'issue de ce concert, ils nous ont proposé de venir dans leur festival.
En mai 2014, le groupe se produit au PsycheFest à Austin. Et c'est le début d'une série de concerts et tournées là-bas.
On a été au South by Southwest aussi, avec plusieurs de mes groupes. Ce qui était chouette, c'est quand on arrivait à Austin, on connaissait déjà la ville. On avait des gens qui pouvaient nous héberger, nous filer des coups de main, nous filer du backline. Et en fait, c'était hyper important par rapport à, on va dire, à des groupes qui arrivaient pour la première fois là-bas et qui devaient payer pour tout, etc.
Pour les acteurs qu'on était, c'était vachement valorisant. Comment ça profite au territoire ? Dans le cas d'Austin, c'était flagrant. Tout d'un coup, dans le réseau des SMAC,
Angers était devenu la porte d'entrée pour aller à Austin et pour aller à South By.
Pour les artistes aussi. Les Blind Sons, Romain et Dorota, ils ont dû y aller 4 ou 5 fois au South by Southwest. Mais on a investi aussi, c'est-à-dire que le programmateur du South by, il est venu ici.
Bonjour, Dorota Kuszewska,
Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait The Blind Sons à l'époque, et qui faisait partie du dispositif de développement du Shabada. On a postulé pour le festival South by Southwest en 2016, indépendamment de tout le reste. On était très surpris d'avoir été sélectionnés. Le festival permet de jouer à un seul spot. Et du coup, mais on s'était dit qu'on va monter toute une tournée autour de cette date-là en se servant des connexions déjà établies auparavant.
Ça a permis pour eux d'y aller.
Doudou, Radical Production.
Après, tu vois, se développer dans un aussi gros territoire, ça dépend pas d'un événement que tu fais. Hein. Ça dépend des deals que tu trouves, si t'as un agent, si t'as un label, si t'en as pas et compagnie. Et là, tu rentres dans le truc qui est quand même très dur aux États-Unis. Après, ça leur donne la chance de se faire voir.
On a rencontré une première personne qui était Samantha Phelps. Donc on a pu créer, je crois, une tournée de dizaines de concerts. Ensuite, on a contacté les services culturels à Houston aussi. Ça nous a aussi permis d'accéder à d'autres festivals au Texas. Et en fait, après, c'était l'effet boule de neige. Et on retournait là-bas à Austin pendant 6 ans.
Pour Eagles, c'est sûr que ça a joué. Après, c'est difficile d'évaluer dans quelle mesure, parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si ça n'était pas arrivé, quoi. Dès le départ, on a eu des opportunités comme ça d'aller jouer à l'étranger, pas que aux États-Unis, mais ça a mis direct un petit coup de projecteur sur le groupe. Je pense que ça nous a donné des opportunités après pour faire des concerts, pour être pris au sérieux par des tourneurs, un label, etc.
Ça permet aussi à des gens dans leur parcours artistique à un moment, le fait de jouer aux Lévitations Angers pour un groupe d'Angers, et encore mieux de jouer aux Lévitations ou à Austin Psychfest à Austin, de valider un peu ton parcours artistique.
En tout cas, ça nous a donné une patte, une certaine crédibilité, une image d'un groupe qui voyage, d'un groupe qui s'exporte. Donc en fait, c'était aussi plus facile de s'exporter dans d'autres coins dans le monde, quoi. On a fait des tournées en Asie, on a fait des tournées en Europe aussi. On a fait un paquet de festivals derrière.
Et si les allers-retours Angers-Austin s'intensifient, ils démarrent aussi dans l'autre sens.
En janvier 2015,
Germain Kouakou.
Nous, on était vraiment intéressés d'aller plus loin, et en tout cas, on était intéressés de ramener plus de choses d'Austin à Angers, parce qu'on trouvait qu'il y avait un déséquilibre.
Je viendrai l'adjoint à l'économie musicale, qui me dit « François, on a calculé l'argent que vous avez dépensé depuis que vous venez ici. Qu'est-ce que vous attendez en retour ?» Je dis, écoute, que vous veniez à Angers, dépenser la même chose que les groupes, les entreprises, etc.
On commence à avoir des pistes dans peut-être une douzaine ou une quinzaine de domaines. Et c'est comme ça que la Austin Week est née.
Et en septembre 2015, a lieu la première Austin Week autour de Lévitations. Un temps fort d'une semaine pour faire se rencontrer les cultures américaines et françaises. Au programme, des échanges gastronomiques de chefs, dont Rémi Fournier de chez Rémi. Des concerts partout dans la ville. Du cinéma en lien avec Premier Plan. Mais aussi des activités autour du tatouage, de la sérigraphie.
Entre, on va dire, je pense que 2015, au moins 2018, 2019, il y a eu énormément d'Américains qui venaient tous les ans à Angers. Moi, personnellement, j'avais un Américain tous les 3 mois qui squattait mon canapé parce que les réseaux des copains commençaient à s'installer.
Son organisation est portée par l'association Austin Angers Créative. En 2017, la Austin Week se transforme en Austin Days, plus fortement encadré par la collectivité.
Les deux modèles ont fonctionné.
Bruno Paris.
Et puis après, donc ça c'était 2018, donc ça devait se faire tous les 2 ans. Puis 2020, il y a eu la crise sanitaire et puis voilà. On a souvent projeté les échanges culturels sur une partie rock parce que c'est issu de Lévitations. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Sur la partie hip-hop, on a eu L'Air de Rien, entre autres, qui a fait pas mal d'échanges, hein, avec qui a même eu des créations musicales. Donc là, il y a eu des choses concrètes.
Et me voici de retour auprès de Guillaume Axou, de l'association L'Air de Rien.
Une première étape sur Angers, on a monté un set quasiment 1 heure en 3 jours. Le 4e jour, on avait 3 concerts dans la journée et des actions culturelles. Parfois, on arrive dans la cour d'un collège, les élèves ne sont pas prévenus. C'était un peu pareil avec Bamako aussi, c'est comment casser un peu les clichés, le regard qu'on a sur les différentes cultures. À un autre temps, en France, où c'était plutôt une sorte de tournée sur l'ouest de la France, et puis un temps sur Austin, ça n'a pas été forcément simple là-bas, parce que c'était une façon de travailler différente. Au niveau de l'accueil dans les salles, c'était pas tout le temps ça. Certains venaient pas au concert, débarquaient le jour d'après, j'ai pas pu venir. On rebondit, on s'adapte et on est flexible. Et ce qui est important, c'est de capter le public. On a décidé de reprendre en sortie de Covid. Donc maintenant, la formule, c'est 6 rappeurs et 1 batteur, mais avec un nouveau nom. Donc maintenant, c'est MDK and the French Touch.
Mis à part cette création transatlantique, la coopération avec Austin, c'est tari. Alors que reste-t-il de tout cela aujourd'hui ?
Depuis que l'association s'est arrêtée, malheureusement, on voit un grand manque à ce niveau-là. La ville d'Angers, elle est moins active. Le Covid aussi a fait un peu le ménage, malheureusement.
Il y a eu beaucoup de hauts, quelques bas, mais moi, ce que j'en retiens, c'est tous les hauts, quoi.
C'est une histoire de 10 ans qui repose sur des initiatives assez privées, mais finalement qui ont un socle commun. L'ambition de développer quelque chose d'un peu innovant et d'un peu inédit.
Et cette ambition, portée par le 9 rue Claveau, de faire d'Angers une ville créative, comme sa grande sœur Austin, est-elle advenue ?
Pour de multiples raisons, c'est pas un chemin politique qui a été suivi, ou en tout cas retenu. J'ai l'impression, mais moi je regarde ça d'un peu plus loin, que le secteur musical, il a suivi son cours. Finalement, on n'a ni infléchi, ni augmenté la courbe.
Clairement, ça repose sur quoi ? Ça repose sur une ambition politique avant tout. Maintenant, si Angers veut jouer cette carte-là, il faut investir ce champ-là. Il faut avoir une vision qui est une vision long terme.
Et si la stratégie de développement économique de la ville n'est pas dans le portefeuille de compétences de l'adjoint aux relations internationales, Benoît Piller reste néanmoins confiant.
Donc si ce n'est pas encore arrivé au niveau espéré, en tout cas la mobilisation des acteurs fait qu'on devrait y tendre. Maintenant, avoir l'ambition d'arriver au même niveau qu'Austin.
Alors on avait de l'ambition qui n'était peut-être pas réaliste, mais en fait j'ai envie de dire, peu importe. Ça crée de l'envie, et l'envie c'est la base de nos métiers, quoi.
Fin du second voyage. Le bruit circule qu'une dynamique serait en train de renaître autour d'Austin, portée par la ville d'Angers, mais aussi autour de l'association Lévitation France, fraîchement créée.
L'idée, ce serait quand même essayer de retrouver du contenu, retrouver des budgets pour refaire des échanges entre Angers et Austin.
Doudou.
Pas faire de l'échange pour faire de l'échange. Hein. Recréer au moins des liens culturels et derrière, des liens économiques quand même. Je sais pas, Angers, ça pourrait servir de camp de base pour des groupes américains, des petits groupes qui tournent en Europe.
Reste à savoir quelle part prendra le Shabada dans cette dynamique naissante. Retour à la maison, la tête pleine de souvenirs, mais aussi de questions. Ces deux coopérations internationales culturelles auront marqué Angers de différentes façons.
Avec Bamako, on a réussi à sortir un peu par le haut grâce à cet échange en direct avec cette structure qui s'appelle Blomba, pour sortir justement de la coopération à l'ancienne. Et avec Austin, on est allé vers quelque chose qui pour moi est vraiment l'avenir, c'est-à-dire comment un territoire, une ville, se nourrit d'être partenaire avec une ville qui a un potentiel vraiment incroyable.
Elles ont souvent dépassé leurs propres frontières, croisant les initiatives d'artistes, d'entreprises, d'associations, du Shabada et de la collectivité.
Tout mélanger, l'international, le culturel, l'économique, ben c'est la base. C'est une chaîne, c'est une filière, c'est une dynamique, c'est un cluster, c'est, appelle ça comme tu veux, mais en tout cas, c'est un tout.
Un croisement original, loin d'être toujours évident à piloter.
Que ce soit Austin ou Bamako, dans les deux cas, tu jongles des budgets culture et des budgets internationaux, et avec aussi en plus des budgets économiques. Et là, une collectivité, elle ne sait pas faire. Qui pilote ?
Différentes visions également se sont exprimées. Clarisse Arnoux défend l'idée de la musique comme soft power.
La musique peut être ce lien, et en tout cas cet atout, qui regroupe pour moi tout ce dont on a besoin. Quoi. À la fois, c'est du lien social, ça unit les gens d'une façon assez évidente. Économiquement, c'est aussi des retombées.
Pour Benoît Pilet, il s'agit avant tout d'agir comme facilitateur d'initiatives.
Le rôle d'une collectivité n'est pas uniquement de faire la place d'homme, mais d'être un rôle d'ensemblier pour que les associations gagnent du temps avec des relations. Donc on essaye d'accompagner les artistes dans le côté facilitateur, mais l'expertise, c'est eux qui l'ont.
François Delaunay, quant à lui, tranche.
Ce qui est difficile, c'est de faire comprendre aux collectivités que oui, on a besoin de leur financement, oui, ils participent à, mais laissez faire les acteurs.
Et dans le monde qui vient, comment concilier ces coopérations internationales avec les enjeux dont nous avons chaque jour plus conscience? Pour Bruno Paris, il faudra sans doute les réinventer.
Il y a un nouveau modèle, il y a de nouvelles réflexions sur les déplacements, tout simplement, hein, sur l'empreinte carbone. Ça peut apporter aussi, à titre personnel, des envies autres.
D'ailleurs, faudra-t-il forcément aller à l'autre bout du monde? Quelle sera la prochaine destination d'aller-retour à laquelle prendra part le Shabada?
Moi, je suis plutôt en train d'essayer de voir comment on renforce en fait l'ancrage territorial du Shabada.
Mélanie Alétru, directrice de la salle, arrivée en 2019, nous donne son point de vue.
Donc si on devait regarder en fait sur l'international, ça serait plutôt côté européen, pour des raisons très simples de proximité, de financement potentiel aussi, hein, parce que l'Europe en fait a des enveloppes sur le champ culturel qui pourraient être mobilisées. C'est un peu moins loin, et surtout on peut peut-être combiner différentes questions autour de ces déplacements-là, et pas que des coopérations, des rencontres artistiques, mais aussi un travail en fait avec tu vois, des jeunes autour de la musique ou des musiques. On peut travailler sur d'autres modèles de développement de nos lieux. Parce que l'Europe, en fait, a quand même du sens, qu'en ce moment, elle a encore plus de sens, ou elle devrait encore avoir plus de sens.
Une chose est certaine, les villes jumelles et les coopérations culturelles internationales sont une façon de s'ouvrir au monde, de construire la paix. Et bien souvent, elles dépassent leurs objets mêmes, qu'ils soient artistiques ou économiques.
Je pense que l'important, c'est les acteurs de terrain, c'est l'aventure humaine, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. C'est toujours un peu artisanal, finalement, la façon de procéder.
Ce qui se passe dans des rencontres culturelles, dans des projets comme ça,
Vincent Loiseau, Quoi ?
C'est des rapprochements de fous à tous les niveaux. Entre les gens qui organisent les projets sur scène, après la scène, il se passe un espèce de bouillon de trucs qui nous échappe d'ailleurs. On monte un projet, puis après il avance tout seul, quoi. Et il se passe 1 million de bonnes énergies qui se mettent en place comme ça. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose de juste dans ces moments-là.
Alors, peu importe la destination. Aller-retour, Angers, Austin, Bamako. Un podcast écrit et réalisé par Julie Améon dans la série des petites et grandes histoires du Shabada à l'occasion des 30 ans de la salle. Un podcast produit par le Shabada en partenariat avec Radio G et Radio Campus. Un projet financé par le programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels du ministère de la Culture avec la voix de Jean-Loïc Tournier, générique par Casamix, mastering par Antoine Quenet-Renaud. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de me raconter leurs histoires et de me livrer leurs archives sonores. Merci également à Lévitation France pour les extraits du documentaire Angers, Texas, 10 Years After, réalisé en avril 2024.